RCF.
Bonjour à tous, à vous qui êtes ici dans ce magnifique auditorium du Collège des Bernardins, Faculté Notre-Dame. Tous les auditeurs aussi de RCF peuvent bénéficier de cette soirée. Et une soirée en partenariat avec Holy Games, la proposition de l'Église pour les Jeux Olympiques de 2024. Pour l'heure, on est confortablement installé dans nos fauteuils. On va présenter les intervenants tout de suite. Mais juste avant, je vais laisser Monseigneur Marsais prendre la parole pour présenter cette soirée qui est en fait la première d'un cycle de 3 soirées au moins. Donc voilà, Monseigneur Marsais, la parole est à vous.
Bonsoir à tous. Bonsoir à RCF aussi. Donc l'événement qui nous réunit, ce n'est pas la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui est à deux pas d'ici, mais c'est un événement encore plus extraordinaire qui s'appelle les Jeux Olympiques. Enfin, j'inverse un petit peu les choses, mais c'est parce que j'ai un peu d'humour. Et donc cette arrivée de 15 ou 20 millions de spectateurs ici a amené l'Église catholique à réfléchir à sa place pour servir, évangéliser, cultiver toutes ces personnes qui viendront. Et donc, on a commencé par faire une équipe, à créer une équipe pour ce mouvement qu'on appelle Holy Games. Et puis ensuite, on s'est dit, mais ça serait peut-être bien de réfléchir à des terrains qui ne sont pas forcément bien défrichés ou bien connus, comme le lien entre le sport et l'âme, la spiritualité, le mot de communion, l'espace de la fragilité, l'intégration, l'intelligence artificielle et le sport. Ce n'est pas des alliances auxquelles nous sommes habitués. Et c'est pour ça que commence ce soir un cycle de 3, 4 ou 5 soirées théologiques et sport, soirées de réflexion sur ce qui unit, ce que Dieu n'a jamais désuni, c'est-à-dire le corps et l'âme. Et Isabelle de Châtelure, à qui je vais passer la parole, va vous présenter en 3 minutes ce qu'est Holy Games et pourquoi nous existons et comment nous allons faire vivre cela pendant les JO.
Voilà, bonsoir à tous. Juste quelques mots vraiment très brefs pour vous parler du projet Holy Games. Holy Games, c'est vraiment la mission de l'Église de planter la croix dans ce monde du sport. Holy Games est né en avril dernier, lors d'un lancement à l'Annonciature, pour dire vraiment ce souci de l'Église d'accompagner le monde du sport. Et vous savez que ce n'est pas l'Église qui est allée frapper à la porte, c'est déjà un appel que nous avons reçu du CIO d'animer sur le village olympique une aumônerie pour les sportifs. Parce que le CIO a, depuis le départ, depuis la création des Jeux modernes par Pierre de Coubertin, cette intuition qu'accompagner les sportifs, c'est aussi les accompagner spirituellement. Donc c'est notre première mission, c'est d'accompagner les sportifs de haut niveau, d'accompagner la pratique sportive. Et donc ce projet Holy Games, il s'inscrit dans la durée. Bien sûr, les JO sont une occasion pour nous de nous ancrer dans le paysage, mais c'est aussi l'occasion de lancer une aumônerie nationale du sport. Holy Games, concrètement, c'est s'appuyer sur ce que le pape François nous a demandé. Le pape François a dit, le sport, c'est une occasion de rencontre, de formation, de mission et de sanctification. Donc on a, avec Holy Games, développé ces 4 axes. Le premier, ce sera la solidarité, faire en sorte que pendant les Jeux, les personnes les plus fragiles, les personnes en précarité, puissent aussi vivre la fête des Jeux Olympiques et la fête autour du sport. Holy Games, c'est également prendre soin de l'éducation des jeunes, de la formation par le sport. Et ce soir, c'est également cette occasion de travailler cette question de la formation. Le pape François nous invite à la mission. Et les Jeux Olympiques sont vraiment une occasion de rencontrer le monde, d'accueillir le monde, d'annoncer la bonne nouvelle à ce monde qui vient à nous. Et puis, bien sûr, le sport, c'est une occasion d'accompagner spirituellement, je le disais tout à l'heure, les sportifs. Donc, Holy Games prendra la forme d'événements concrets, par exemple, ce colloque et ces soirées qui vont se succéder, des événements sportifs. Voilà, j'en vois ici qui aiment le sport et je les connais, qui aiment courir. Le 28 avril, on aura une course des églises de Paris, et puis un certain nombre d'événements sportifs qui nous amèneront jusqu'à un grand événement qui sera pour nous le lancement des Jeux Olympiques le 19 juillet, une messe d'ouverture de la trêve olympique, l'occasion pour nous de porter par la prière cet événement extraordinaire qui vient à nous. Et puis on accompagnera jusqu'à la clôture des Jeux paralympiques cet événement pour ensuite se lancer dans un projet qui sera certainement plus vaste, qui s'appuiera localement sur ce qui existe déjà, puisqu'il y a déjà beaucoup d'initiatives autour du sport et de la foi dans les diocèses, pour que Holy Games puisse perdurer. Et le Vatican nous a déjà demandé de poursuivre la route au moins jusqu'à Los Angeles. Et on aura peut-être les Jeux de 2030. Donc vous voyez que longue vie à Holy Games. Merci en tout cas à vous d'être là ce soir pour cette première. Et à très bientôt.
Merci beaucoup Isabelle, on peut l'applaudir. Merci Isabelle et merci et bonsoir à nos trois intervenants. Avant de venir, j'ai ouvert une Bible et j'ai regardé combien de fois il y avait le mot sport dans la Bible en disant bah, tiens, je vais sortir un petit extrait d'évangile où il y a le mot sport, ça va être sympa. Ce mot n'existe pas dans l'évangile pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un mot qui date du 19e siècle. Et donc, par nature, dès lors, comment envisager une soirée qui s'appelle sport et spiritualité si le mot sport n'apparaît même pas dans une Bible? Alors, pour nous aider, on a un exégète. Bonsoir, Père Jean-Noël Aletti. Vous êtes jésuite et vous allez nous parler ce soir des métaphores de saint Paul. On va commencer avec vous, on va prendre le temps pendant 10-15 minutes d'identifier les métaphores sportives, notamment chez saint Paul. Et puis nous ferons dialoguer un futur prêtre et un prêtre ancien sportif de haut niveau. Bonjour, Père René Pichon.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Chambéry, vous avez été un spécialiste de la course à pied et vous l'êtes encore, vous me disiez avant de commencer, que vous faites 10 km par jour, c'est ça?
Voilà, moi je fais encore 10 km par jour aujourd'hui, mais donc pendant des années, je faisais 40 km par jour dans le grand club d'Aix-les-Bains. Et donc j'étais champion de la région là-bas, Rhône-Alpes, 5000 mètres, 10 000 mètres, 1500, 10 000, etc. Et puis donc tous les jours, donc le footing et le sport, c'est une manière de vivre et une manière d'être, puisque même maintenant, je continue encore, même si ça va moins vite. Voilà.
Et bonjour, Père... pas encore, pardon, excusez-moi. Bonjour, Jason Nokia.
Bonjour, faut attendre encore quelques mois.
Vous êtes diacre en vue du sacerdoce pour le diocèse de Meaux. Et vous avez été vice-champion de France de judo. Vous avez été judoka avant de rentrer au séminaire. Voilà pour le programme. On va commencer donc par un peu identifier chez saint Paul comment le sport existe. On dit que le sport donc, n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas le mot sport. Et pour autant, Père Jean-Noël Aletti, eh bien, chez saint Paul, on parle de sport.
En 10 minutes. J'ai droit à 10 minutes et pas plus. Alors, si saint Paul parle dans presque toutes ses lettres, disons, du sport, en particulier de deux sports, la course et la boxe, bon, pour des raisons que je vais peut-être avoir le temps de dénoncer, il l'a fait parce qu'à l'époque, le sport était quelque chose de... disons, d'infiniment développé dans la société grecque. Vous avez entendu parler du gymnase, hein, le gymnase, les progymnasmata, tout ce qui était... Donc le gymnase, c'est là où on faisait du sport. Et il y avait une complète, disons, équivalence entre l'intellectuel et le corporel. Donc on ne pouvait pas faire d'études sans faire de sport. Donc cette densité... disons, physique, pourrait-on dire, a eu une influence très certainement sur le Paul, qui connaissait aussi les progymnasmata et qui a peut-être fait les progymnasmata, c'est-à-dire les exercices préparatoires au gymnase. Donc, une importance dans la société d'alors donnée au sport depuis le plus jeune âge. Donc, dès l'école, on pourrait dire aujourd'hui l'école primaire, les progymnasmata jusqu'au collège, et puis après au gymnase, donc cette importance donnée au sport. Deuxièmement, non seulement l'importance donnée au sport dans l'éducation, mais avec comme résultat un certain nombre de grands héros du sport, bien connus, qui avaient leurs inscriptions sur les grands bâtiments et qui, dans leur ville, étaient considérés comme des héros. Donc on cultivait, disons, l'image du sportif. Et c'était très important. Troisième point important, à l'époque de Paul, disons, la datation même en Grèce était faite à partir des Jeux Olympiques, qui avaient été depuis le 8e siècle jusque, disons, au 3e, 4e après Jésus-Christ, avaient, forgé un peu la manière dont on réfléchissait sur le temps, sur la manière dont la Grèce a vécu ses différentes séries, ses différentes ères, pourrait-on dire. Donc, et quatrièmement, au niveau des épreuves, ce qui est resté dans notre système actuel, au niveau des Jeux Olympiques, qui ont ajouté un certain nombre de choses, c'était, disons, le stade principalement. Le stade avec, disons, la course, le pentathlon, donc aujourd'hui nous avons le décathlon, la boxe, donc ce qu'on appelait aussi le pentathlon, donc le saut, le disque, le javelot, la course, la lutte, la boxe, la course de chevaux, le pancrace, qui étaient principalement des sports de lutte et de combat, comme la boxe et la lutte actuelle. Et puis, disons, aussi les jeux d'armes. On se battait à l'épée, etc. Voilà, donc une importance qui était tout à fait nette et qui a fait que Paul ne pouvait pas ne pas, disons, connaître ces jeux-là. A-t-il assisté aux Jeux Olympiques ? C'est peu probable, c'est tout à fait même impossible, parce que comme juif, il fallait, disons, pour assister aux Jeux Olympiques, être obligé d'assister à la première journée, qui était une journée, disons, religieuse. Et là, on offrait des sacrifices aux dieux. Et donc, pour un juif, aller aux Jeux Olympiques, cela signifiait se rendre impur. Et donc, il est peu probable que Paul ait pu assister aux Jeux. Mais il y avait un tas de raisons pour lesquelles les Jeux étaient très connus, indépendamment du gymnase et des pro-gymnasmata. Il y avait tous les grands vases. Si vous allez dans un musée, je vous conseille d'aller dans l'aile grecque, et vous verrez que la plupart des vases grecs sont des vases où l'on décrit, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques, des phases, enfin, disons, de la lutte, la boxe, la course, etc. Voilà. Donc, métaphore. Maintenant, passons à Paul. Paul fait des métaphores, c'est-à-dire qu'il a comparé, disons, il s'est inspiré de la volonté qu'avaient les grands sportifs, disons, qui voulaient la gloire, qui maîtrisaient leur corps et qui avaient un entraînement extrêmement fort et intensif pendant des mois avant les Jeux Olympiques. En gros, l'entraînement durait un an. On arrivait un an avant les Jeux et on s'entraînait pendant un an près de, disons, d'Olympie. Cela veut dire qu'il y avait une volonté, n'est-ce pas, une ténacité que Paul retient, non seulement une ténacité, une volonté de gloire, non pas d'argent, mais de gloire, et une volonté, d'être reconnu par tous. La gloire, c'est-à-dire la reconnaissance. La reconnaissance et les grands héros des Jeux Olympiques étaient plus connus même que les grands politiciens. Donc il y a un réel problème là, n'est-ce pas, au niveau politique. Le politique, ce qui était le plus connu en grec, c'est d'abord les orateurs et les philosophes, et ensuite les héros du stade, avant même les politiciens. Donc, une importance donnée au sport dans les lettres pauliniennes, et dans toutes les lettres, quelles qu'elles soient, il y a une allusion à la course et à la boxe. Alors, pourquoi cela ? Saint Paul utilise cette métaphore, disons, sportive, pour une bonne raison, pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est que, dans une période où les chrétiens commençaient déjà à être persécutés, où il fallait tenir le coup, il fallait défendre sa foi. Et la foi n'était pas quelque chose, disons, d'immédiat ou d'occasionnel, elle était pour toute la vie. Donc se convertir à la foi en Jésus-Christ, cela signifiait être capable, n'est-ce pas, de dépasser, même de se défendre contre les attaques et d'être fidèle dans l'adversité. Donc le premier point est celui-là, la ténacité. Le deuxième point important donc pour Paul, c'était qu'il y allait, et c'était selon l'Évangile, de même que les sportifs veulent la gloire, nous devons, pour obtenir la gloire du ciel, faire tout pour l'avoir. Ce qu'il reproche à la plupart des chrétiens déjà à son époque, c'est de ne pas prendre les moyens d'avoir la gloire céleste. Et donc, pour avoir la gloire céleste, il faut s'entraîner comme le font les grands sportifs. Il faut une ténacité à toute épreuve et journalière. Et le troisième point que je rajoute aux deux premiers, c'est que, à la différence des grands sportifs, les chrétiens qui veulent l'humilité, parce qu'il y a un paradoxe évidemment, n'est-ce pas ? Saint Paul dit aux chrétiens, soyez les plus humbles possibles. Or, le but du sportif, c'est la gloire. Alors, on ne peut obtenir des chrétiens qui deviennent comme les sportifs qu'en leur disant, vous aurez la gloire, mais pas sur cette terre, au ciel. Voilà. Et donc, c'est en prenant modèle sur ces sportifs, de même que, par exemple, on a dans les évangiles la fameuse parabole, n'est-ce pas, de l'intendant malhonnête, n'est-ce pas, où, à la fin, le maître de maison loue l'intendant malhonnête de s'en être sorti, alors qu'il est viré, n'est-ce pas, de son emploi. Il faut que ceux qui sont croyants aient la même ténacité pour s'en sortir que les gens de ce monde. Et donc, il y a là une espèce de raison supplémentaire, de même que dans le monde, ceux qui recherchent la gloire, ceux qui cherchent absolument à s'en tirer, arrivent à leur fin, de même, nous, chrétiens, nous devons prendre les moyens, c'est pas car il y va de l'Évangile, les moyens pour témoigner et avoir la gloire céleste. Voilà, je crois qu'on peut résumer ça comme ça. J'ai même pas pris 2 minutes, voyez-vous. Donc,
vous voyez, vous avez été encore plus rapide que ce à quoi on s'attendait, Père Jean-Noël.
Voilà. J'ai pas lu mon texte. Ce qui vous ennuie, peut-être, je l'ai évité.
En tout cas, on est au Bernardin, faculté Notre-Dame. Donc, forcément, on commence par un petit point d'exégète. Mais il y a quelques mots-clés que vous avez cités: ténacité, volonté, gloire. Vous, Père René Pichon, quand vous êtes devenu séminariste, vous étiez déjà sportif. Et sportif de très bon niveau. Et vous avez été confronté un peu à cette opposition, ce malaise de l'Église vis-à-vis de cette notion de gloire.
Alors, pas seulement vis-à-vis de la gloire, mais aussi de la compétition et de la sensation. Il y a les trois mots là que je voudrais citer. Donc, et là, je parle combien de temps là ?
Présentez-vous.
Vous prenez le temps de vous présenter. Comme le père.
Au pire, je vous coupe.
Donc, quand je suis entré au séminaire, on m'a dit non, normalement, tu ne vas pas pouvoir continuer à faire de la course à pied parce que c'est de la compétition individuelle. Ce n'est pas tout à fait conforme à l'Évangile. Si tu es prêtre, ce n'est pas tout à fait conforme à l'Évangile. Alors, et puis après, tout au long de mon séminaire, on a discuté de ça. Et donc, voilà les questions qui se posaient. C'est: est-ce qu'on peut, en tant que prêtre, être témoin de ce grand message de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ?» en faisant de la compétition. La compétition, c'est un combat. La compétition, on cherche à battre les autres. Donc, aimer, normalement, c'est aider, c'est soutenir, c'est partager, c'est, attendre. Mais alors que la compétition, c'est, allez, je veux battre les autres, je veux gagner, je veux être meilleur que les autres, donc je fais tout pour les vaincre. Alors, comment peut-on aimer en cherchant à vaincre ? Bien, dans le sport, petit à petit, en réfléchissant et avec aussi donc la réflexion spirituelle, je me suis dit peut-être que dans nos rapports avec les autres, si on veut vivre l'Évangile, l'amour, il n'y a peut-être pas en face de nous simplement un frère, il y a aussi un adversaire. Le sport m'a appris cette notion spirituelle de l'adversaire. Aimer l'adversaire, aimer celui qui lutte contre nous, qui ne nous fait pas de cadeaux, qui nous fait mal même, mais pour qu'on puisse se dépasser. Parce que la compétition, c'est l'émulation. Donc, l'amour, c'est pas simplement partager, aider, c'est lutter contre. Et là, j'ai le combat de Jacob, moi, que j'aime beaucoup dans l'Évangile, parce que peut-être que la meilleure manière d'aimer les autres, c'est de combattre contre eux pour qu'ils se dépassent. Parce que si je les attends, si je partage avec eux, je les fais pas progresser. Alors là, c'est tout un grand débat, le sens de la compétition. Elle peut être vécue d'une manière spirituelle, en tout cas. Pour moi, ça a été petit à petit, parce qu'aimer quelqu'un qui nous bat, c'est pas facile. Hein. Et puis chercher à aller vers ceux qui vont nous battre, c'est pas non plus facile. On est mieux rester dans son petit coin. Voilà. Et puis la deuxième question, c'est justement la gloire. Est-ce qu'on peut être chrétien en cherchant à être le premier ? Les premiers seront les derniers seront les premiers, etc. Donc tout à l'heure, la gloire, voilà. Est-ce que c'est pas de l'orgueil ? Eh bien, moi, petit à petit, j'ai appris que je me suis dit, oui, mais l'ambition, c'est pas forcément de l'orgueil. Hein? Voilà, ici, le diocèse de Paris a l'ambition de faire beaucoup pour que la foi soit aussi reconnue à l'occasion des Jeux Olympiques. Il faut avoir de l'ambition, il faut en vouloir, il faut se démener, il faut avoir des projets. Donc, l'ambition, ça nous permet de nous lancer. Donc, c'est pas forcément de l'orgueil, parce que dans le sport, si on cherche à gagner, je vais être le premier. Mais on est beaucoup plus souvent dernier ou on perd beaucoup plus souvent qu'on gagne. Donc le sport apprend l'humilité. Voilà. En voulant être ambitieux, on apprend l'humilité. C'est le paradoxe. Hein.
Là, Père René Pichon, vous dressez tout le tableau de la soirée déjà. Mais en un mot, est-ce que vous avez continué une fois rentré au séminaire pour que les gens ici ils aient un peu une idée de votre parcours? Vous avez quand même continué la course à pied?
Tout le temps, j'ai pu continuer parce que c'était dans les années 68-70 où il y avait tellement d'autres problèmes. Donc j'ai continué. Puis petit à petit, justement, eh bien, je discutais avec... les sportifs qui n'étaient pas croyants, pourquoi tu vas au séminaire, à quoi ça sert, voilà. Et puis inversement au séminaire ou dans les milieux religieux, voilà, on discutait de tout ça. Donc petit à petit, moi j'ai écrit 3 livres, Le sport et la foi, La course de ma vie, L'âme du sport et Le sport de l'âme, parce que c'est le fruit de ces réflexions dans tous les débats que j'ai pu avoir, voilà.
Et débats qu'on va continuer d'avoir avec vous, Jason Nokia. Peut-être justement vous aussi, en quelques mots, vous présenter, dire un petit peu pourquoi vous êtes là ce soir, comment vous vous êtes retrouvé assis sur une chaise au Collège des Bernardins, Faculté Notre-Dame, un soir de janvier.
Alors on parlait à l'instant de course, je peux dire que j'ai quand même fini un long marathon d'études de théologie ici dans cette maison, ce qui me permet de remercier le président, le père de Malherbe, qui m'a accueilli, qui m'a remis mon diplôme ici en juin dernier.
Félicitations.
Mais ce que je peux dire, c'est qu'au quotidien, voilà, j'ai 2 mi-temps. Le premier où je suis au service de la mission Holy Games, voilà. Et le deuxième où voilà, je suis aussi en paroisse dans mon diocèse à Meaux. Donc 2 mi-temps, c'est un peu là aussi la vie d'un sportif, où quand j'étais sportif de niveau, j'avais vraiment ce double projet, ce projet et sportif et universitaire, ce qui m'a notamment permis de faire du judo à haut niveau. Voilà. Donc j'étais licencié en Seine-et-Marne, j'ai commencé le judo... à 3 ans, ce qui m'a permis, de, comme vous l'avez très bien dit, d'avoir quelques médailles en championnat de France, d'être plusieurs fois champion de Seine-et-Marne et aussi plusieurs fois champion régional, champion d'Île-de-France. Et donc, on va dire que c'est pour moi une longue course qui a été pour moi une rencontre avec le Seigneur, qui m'a permis de discerner aussi ma vocation à devenir prêtre et vous témoigner un peu des fruits que ça a pu produire dans la vie spirituelle.
Car votre vie spirituelle, comment a-t-elle trouvé votre vie de champion de haut niveau? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé, alors vous étiez champion de haut niveau, à prendre cette décision quand même, avons-le, assez folle de dire « j'arrête tout et je rentre au séminaire
». Je dirais que l'exigence du haut niveau appelle une forme de radicalité. On abandonne tout pour le sport, on abandonne tout pour être le meilleur. On a parlé de performance, de gloire, donc je pense que c'est vraiment quelque chose... que j'ai pu rechercher, être le meilleur, quels moyens je mets, qu'est-ce que je vais développer pour être le meilleur. Et donc je dirais que pendant toute une saison, on se prépare pour un championnat de France et que finalement, à ce championnat de France, on fait premier tour et tout s'arrête, et ben, on réfléchit sur le sens de notre propre vie, sur quel sens on veut donner à notre vie. Donc je dirais que les plusieurs fois où j'ai été confronté à la défaite, et ben, toutes ces fois-là, je me suis quand même... remis en question de me dire, mais quel sens je voulais donner à ma vie?
Vous avez utilisé le mot radicalité. Père Jean-Noël Aletti, cette radicalité, vous l'évoquiez chez saint Paul. Comment est-ce qu'elle s'exprime chez saint Paul? Saint Paul aussi, il y a cet appel à la radicalité. Aujourd'hui, en fait, la conversion de saint Paul, c'est un jour où saint Paul a décidé de tout quitter pour suivre le Christ. Saint Paul, dans ce qu'il a écrit, il y a aussi cette notion de radicalité.
Radicalité, oui. C'est-à-dire que pour la radicalité, pour saint Paul, elle est que... Dans la préférence au Christ, c'est-à-dire que si vraiment le Christ est tout pour moi, je dois tout faire pour, obtenir, disons, le connaître lui avec la puissance de sa résurrection, etc. Donc les moyens que je prends, qui sont métaphoriquement, disons, sportifs, les moyens que je prends sont des moyens qui sont au service de cette radicalité qu'est le Christ. C'est-à-dire, pour Paul, ça ne sert à rien... n'est-ce pas, de faire du sport pour faire du sport. Pour lui, le sport est un sport qui est orienté vers le Christ et donc qui fait sens pour la préférence au Christ. Mais donc, de même que le sportif veut le prix, veut donc la gloire qu'il a, etc., de même le chrétien veut cette gloire, mais c'est une gloire christique, c'est-à-dire être avec le Christ, avoir la glorification du Christ. Ce n'est pas une gloire en soi, hein, pour Paul. Donc c'est le rapport à une personne. La radicalité, elle est dans le rapport à une personne. Donc si je l'aime, eh ben, il faut que j'en prenne les moyens. Alors, et les métaphores sportives sont pour Paul un moyen, parmi d'autres, hein, il n'y a pas que cela, mais disons, pour expliquer cette nécessité disons, d'une radicale, disons, subordination de mon existence à l'être avec le Christ, quoi. Voilà.
Père René Pichon, cette radicalité, comment vous l'avez vue dans votre expérience du sport ? Est-ce que quand vous étiez au séminaire et en même temps vous aviez votre club d'athlétisme où il n'y avait pas que des séminaristes par nature, comment est-ce que vous avez vécu cette ambition du sport d'être tournée aussi vers l'objectif du Christ ?
Eh bien, justement, l'ambition, pour si on veut se faire prêtre, c'est bien parce qu'on a l'ambition d'annoncer le Christ et surtout parce qu'on a l'ambition de le faire connaître. On a l'ambition même, parce que celui qui a eu la plus grande ambition dans l'histoire, pour moi, c'est le Christ, et il avait l'ambition de sauver le monde. C'est quand même pas rien du tout, ça.
Non,
alors donc, maintenant, justement, moi, l'ambition, c'est pour ça que j'ai uni les deux. Moi, je pense que le sport peut sauver le monde et que le Christ peut sauver le monde aussi, évidemment, et que les deux peuvent être ensemble dans le monde moderne. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sinon le sport ? Quand on voit l'actualité, quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit les résultats sportifs avec les performances, avec comme on va voir ça encore avec les Jeux Olympiques, ces rassemblements de toutes sortes, de tous les pays, pour se dépasser, qu'à le maître mot du sport qu'on n'a encore pas employé, c'est se dépasser. Donc, voilà, l'ambition, c'est vraiment ça, l'ambition de sauver le monde. Et le sport aujourd'hui, moi je pense que le sport, si on le vit avec un certain état d'esprit, donc une spiritualité, eh ben, le sport peut sauver notre monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le sport dans le monde d'aujourd'hui ? Enfin, certainement d'autres choses, mais ça...
Pour autant, ça peut devenir une idole, le sport. On parle de grand messe du sport pour parler des Coupes du Monde. Il y a une religion, on est tous rassemblés dans un stade. Quelque chose de l'ordre de spirituel, de transcendant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que le sport devienne une idole à part entière ?
Le sport peut devenir une idole, on le voit, c'est vrai que le sport peut devenir une idole. Mais justement, c'est là que moi, j'ai toujours eu la remise en cause du sport par la question, par la foi. Mmh. Pour ça qu'en liant les deux, il y a un bon équilibre. Parce que c'est un peu ce que vient de dire aussi, voilà, moi, ce n'est pas ma gloire que je recherchais, c'est la gloire de l'homme, l'homme est la gloire de Dieu. Donc, servir le salut, c'est servir un homme plus heureux, plus épanoui, qui s'épanouit dans toutes les dimensions de son être, le sport peut aider, mais en même temps, eh bien, il faut relativiser le sport. Pour lui-même, il faut que le sport soit pour autre chose. Et c'est ce qui manque maintenant dans le sport d'aujourd'hui. Le sport, c'est la performance, c'est l'argent, c'est la gloire humaine. Mais est-ce que le sport est au service de l'homme, au service de l'homme et d'un monde meilleur ? Donc, la foi intervient pour dire oui, c'est ça qu'il faut dire. Et surtout, vous qui êtes chrétiens, nous qui sommes chrétiens, engagés dans le monde du sport, nous sommes là pour dire aux sportifs, mais pourquoi tu fais ça ? Si c'est pour toi, tu rates l'essentiel. Hein ? Il faut que ce soit pour une autre gloire que la tienne, la gloire de l'homme vivant, la gloire de Dieu dans l'homme vivant, moi je dirais ça comme ça. Donc, on interroge le sport sur le but principal. Quel est le but principal du sport ? Eh bien voilà, c'est un monde meilleur, un homme meilleur.
Jason Gnocca, vous, comment vous avez évité cet écueil du sport idole ? Comment est-ce qu'on garde en tête le but du sport ?
Avant tout, il ne faut pas oublier que le sport est un jeu. J'ai envie de dire, pas oublier que toutes les règles autour du sport, ou même tout ce qui concerne le fair play, tout ce qui va être mobilisé pour que cette dimension sportive puisse être toujours dans, j'ai envie de dire, se passe du mieux que possible. Je peux prendre l'exemple, on voit bien à l'entraînement, on était par exemple... 5 de la même catégorie de poids, il y avait une forte concurrence, mais le fait qu'on garde toujours en tête que c'est un jeu et qu'entre nous on s'entraide, donc cette question de la fraternité et de dire qu'on s'entraide, on s'entraîne ensemble pour devenir ensemble plus fort, même si en compétition, très concrètement, il y en a toujours un qui va gagner, mais garder en tête que c'est un jeu, je pense, permet d'éviter certains écueils.
Voilà. Là, on a deux représentants de sport individuel. Parce qu'il y a aussi l'opposition entre sport collectif et sport individuel. Dans le sport collectif, il y a la fraternité, donc il y a aussi l'aventure qu'on mène avec une équipe. Est-ce que, peut-être Père René Pichon, le fait que vous fassiez un sport individuel versus un sport collectif, il n'y a pas aussi là un écueil possible de se dire attention à ce que je ne cherche pas, ce n'est pas ma gloire personnelle, mais bien le but dont vous parliez juste avant.
Justement, c'est aussi pour ça que au séminaire, ça a été... Moi, j'ai pu continuer, mais au séminaire, le sport d'équipe, pas de problème. Il faut y aller, on est ensemble, mais pas le sport individuel pour les raisons donc, que j'ai déjà expliquées, puis il y en a encore beaucoup d'autres. Mais moi, je dirais que le problème, c'est que même dans un sport individuel, on a besoin de l'équipe et qu'on s'entraîne ensemble. Et surtout, régulièrement, parce que moi, j'ai le sport quand même tous les jours, 40 km d'entraînement. Et des jours, on a envie d'arrêter. Puis il y a des jours, on se dit, mais quand même, je perds du temps. Et ça aussi, c'était une autre question. Tout le temps que tu passes, même des paroissiens me le disaient, tu passes plus de temps au stade qu'à la paroisse. Bon, parce que le temps d'y aller 2 heures, ça fait 4-5 heures par jour, surtout quand on a 20, 25 ans, c'est une vraie question.
Vous répondez quoi à ça? Vous répondiez comment?
Eh bien, moi, je disais que, eh bien, d'abord, l'équipe, c'est vrai que les autres y vont, donc moi, j'y vais. Je ne veux pas être. Si on veut être pris au sérieux, surtout quand on est séminariste et qu'on est repéré comme ça, ben faut jouer le même jeu que les autres. Donc si les autres s'entraînent autant, si tu veux être crédible, il faut aussi que tu t'entraînes autant que les autres. Et si possible, tu aies aussi des résultats. Donc voilà. Donc c'est ça. Et puis le problème, c'est que le temps perdu, eh bien, en fait, m'habituer, moi, le fait à travailler beaucoup plus vite. Et que le sport, c'est aussi le souffle. Ça aussi, c'est spirituel, hein. Le souffle, l'esprit qui plane sur les eaux d'entrer dans la Genèse. Eh bien, en faisant du sport, on travaille le souffle. Or, le souffle, c'est la spiritualité, c'est l'esprit. Hein? Alors, donc, ça me donnait beaucoup plus de tonus. D'ailleurs, petite anecdote. Quand j'étais au séminaire, donc j'avais fait 8e au championnat de France de 5000 mètres en 23 ans, quand j'étais donc dans les meilleurs Français, eh bien, je m'étais habitué à rendre mes devoirs avant les autres. Parce que les profs disent « Ouais, toi, tu fais du sport, tu fais même pas tes devoirs. » Donc, je me suis habitué à travailler beaucoup plus vite. Donc, voilà, c'est aussi en ce sens-là que le sport rejaillit sur la vie. Parce que, voilà, ça nous donne du tonus, de l'envie et de la motivation, puis de la volonté, hein, le sens de l'effort. Donc, on travaille peut-être plus facilement quand on a cette expérience-là.
Il y a un mot que vous n'avez pas utilisé, je crois, ni l'un ni l'autre. Et pourtant, moi, quand je fais du sport, je souffre. Il y a la question de la souffrance. Il y a aussi la question de la mortification. Je ne sais pas, je ne vais pas utiliser des mots trop compliqués. Mais Père Jean-Noël Aleti, est-ce que chez Saint-Paul, on a aussi cette question du rapport avec la souffrance? Chercher Dieu, chercher le Christ, eh bien, c'est aussi accepter de se dépasser soi-même et donc d'accepter une forme de souffrance?
Oui, il le dit d'ailleurs, hein, n'est-ce pas, que les sportifs souffrent dans ces métaphores. Ils souffrent pour avoir la couronne. Donc il y a un aspect, comment dire, de renoncement, un certain nombre de plaisirs. Donc le sportif ne veut pas tout se permettre, etc.
Comment
donc,
il le dit, Saint-Paul? Il dit explicitement, il parle de souffrance.
Oui, tout à fait. Il dit il souffre pour obtenir le prix, etc. Donc il y a une reconnaissance d'une souffrance physique nécessaire, mais qui est noble. Donc, en vue d'une reconnaissance. Parce qu'en fait, le vrai problème du sport, disons, à l'époque de Saint-Paul, c'est la reconnaissance. Ce qu'on appelait à l'époque l'anagnorisis.
Oula.
Tout le monde sait ce que ça veut dire, évidemment.
Bon. Redis-nous ce mot lentement, ouais, quand même, qu'on retienne un mot grec ce soir.
Les gens voulaient être reconnus. Alors, on était reconnus par l'argent, on était reconnus par le clientélisme, par l'évergétisme, tout le monde sait ce que c'est que l'évergétisme, donc, etc., etc. Donc la reconnaissance était essentielle, à quelque niveau que ce soit. Donc quelqu'un qui n'était pas reconnu n'existait pas. Donc pour se faire reconnaître, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait tout ce qu'on peut. Alors si vous avez de l'argent, il faut le donner aux autres, mais à condition que les autres fassent des belles inscriptions sur les pierres en disant que ce qu'il a obtenu, c'est grâce à vous, etc., etc. Donc la reconnaissance était essentielle. Donc il fallait être reconnu parce que qui n'est pas reconnu n'existe pas. Donc Saint Paul déplace le problème en disant ce n'est pas d'être reconnu qui est important pour le chrétien, c'est de le connaître lui. Mais pour le connaître, lui, il faut que je prenne les moyens, justement, qui sont les moyens des sportifs, c'est-à-dire un constant renoncement à un certain nombre de choses, mais par amour. C'est-à-dire, le renoncement ne s'explique que par, disons, la préférence et une expérience qui est inouïe, à savoir le Christ, comme ce matin, on avait ça je crois que c'est pour Saint Paul, il y avait un passage avant l'évangile, n'est-ce pas, de Galates, n'est-ce pas, celui qui m'a aimé, qui est mort pour moi. Donc c'est l'expérience de l'amour de Dieu pour moi qui fait que je veux rendre à Dieu ce qu'il m'a donné et j'en prends les moyens. Voilà, donc c'est pas et je pense que pour revenir un peu à ce que disait le père Pichon, là, il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est-à-dire que quand on dit que le sport donc est va contre l'Évangile ou va contre des valeurs chrétiennes qui sont des valeurs de partage, je pense qu'on peut en parler comme saint Paul qui prend des métaphores, mais vous savez que on utilise les métaphores en choisissant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire dire à une métaphore. Il y a des sèmes dans une métaphore qui sont choisis. Quand je dis que X est un lion, il n'a pas la crinière d'un lion. Bon, nécessairement. Alors, je choisis et je dis il est comme cela pour telle raison. Eh bien, le sport, c'est la même chose. Saint Paul n'a pas pris tous les éléments qui, à l'époque, n'est-ce pas, étaient ceux choisis par les athlètes. Il n'a pris dans ces éléments-là que ceux qui correspondaient à l'Évangile. Donc il y a une manière d'inculturer, disons, la vie et l'expérience chrétienne, bon, qui prend dans ce que les gens estiment à l'époque être bon. Bon, on le prend parce que ça parle aux gens. Et puis, de fait, ça indique une dynamique et une expérience, ça favorise une expérience chrétienne. Voilà.
Père René Pichon.
Bon, c'est pas plus compliqué que ça.
Père René Pichon.
Oui, moi, je dirais qu'il y a deux sortes de souffrances, la souffrance négative et la souffrance positive. Et le sport m'a appris la souffrance positive. C'est-à-dire que la souffrance négative, on se fait du mal. Tandis que la souffrance positive, on se fait mal. On se fait mal, mais pour un mieux, pour un bien. C'est un peu la douleur de l'enfantement. C'est-à-dire on souffre quand même quand on fait tous les jours 30 à 40 km pas d'entraînement, surtout qu'il y a des jours où on est plus fatigué. On souffre, mais comme on se sent bien après, parce qu'on entre dans un au-delà de nous-mêmes, et c'est une vraie question spirituelle aussi, quand on dit qu'on se dépasse, on va au-delà de soi, mais au-delà de soi, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a vraiment un au-delà de nous-mêmes? Alors, moi, personnellement, je dis oui, il y a un au-delà de nous-mêmes, et c'est comme ça que le sport peut devenir spirituel. C'est au-delà de nous-mêmes, on le reconnaît surtout quand on arrive à ce qu'on appelle non seulement la sensation, mais l'état de grâce. Il y a un moment donné, après une souffrance très forte, tout par un coup, tout devient facile. Et cette facilité, on ne peut pas se l'attribuer à soi-même parce que nous, on est là, on peine. Donc, il y a comme un don qui nous est donné d'ailleurs et qui fait que ce qui était difficile devient facile. Ce qui était souffrance, ça passe. Donc, moi, j'appelle ça la souffrance positive. Hein. Donc, et je fais se faire mal pour un bien, ce n'est pas pareil que se faire du mal. La souffrance négative, c'est la blessure. La souffrance négative, c'est la déprime parce qu'on ne réussit pas, parce que voilà. Hein. Donc, et là, c'est vraiment... Et comme dans l'Évangile, on dit souvent Jésus nous a sauvés par ses souffrances, mais pas par n'importe quelle souffrance quand même, parce qu'autrement, c'est le masochisme. Hein. Et donc... dans la spiritualité chrétienne, parfois, avec l'ascétisme, on dit qu'il faut souffrir pour gagner le paradis. Mais attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pas Jésus ne nous a pas sauvés par ses souffrances, mais parce qu'il nous donne l'énergie, la force, l'amour et toutes les valeurs, la volonté pour justement se dépasser. Et donc, là, à ce moment-là, c'est une souffrance qui nous fait devenir un homme nouveau, qui nous fait grandir, qui nous épanouit, alors que la souffrance négative, elle nous détruit. Voilà, puis même elle détruit parfois les autres aussi.
Et comment est-ce que cela s'exprime dans notre vie spirituelle? Parce que là, vous avez parlé de la vie sportive, on a bien l'image de, courir, ça, c'est pénible, on souffre, et puis parfois, quand on fait un jogging, on est content de l'avoir fait. Oui. Comment est-ce que ça se répond dans la vie spirituelle? Comment est-ce qu'on a cette même sensation de « Ah, je suis content d'avoir prié ?»
Ah ben, c'est pareil, parce que moi, quand j'ai écrit mon dernier livre, « L'âme du sport et le sport de l'âme », ça rejoint aussi ce que vient de dire le père Aletti, c'est-à-dire que si on veut... progresser spirituellement, il faut faire des exercices. Déjà, les exercices spirituels, là, justement, Ignace de Loyola, il a transposé un peu, si on peut dire, lui qui était un combattant et guerrier, il a transposé les méthodes du combat dans la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est des efforts. C'est des efforts. Alors, justement, moi, même pendant mon séminaire, il ne fallait pas trop parler d'efforts au séminaire, mais alors, dans leur sport, on ne parlait que de ça. Et donc, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Oui, mais la grâce de Dieu qui nous sauve, si on ne va pas la chercher, elle ne va pas nous tomber dessus. Et donc, nous, ce qu'on appelle l'état de grâce en sport, c'est l'état de grâce qui vient au bout des efforts. Ce n'est pas à la place des efforts. Donc, il faut dans la vie spirituelle, moi, ce que j'appelle le sport de l'âme, c'est Il faut que, si on veut progresser dans l'humilité, dans la confiance, dans l'espérance, dans la foi, il faut travailler. Il faut s'entraîner. Tout à l'heure, hein. C'est l'entraînement qui compte. Et l'entraînement, c'est des efforts. Donc, c'était une certaine souffrance, mais pour un bien. Donc, voilà, le sport, il faut... La spiritualité, c'est le sport de l'âme. Bon, enfin, c'est ma manière de dire. Parce que c'est des efforts, et des efforts qui supposent une certaine souffrance, mais pour se faire du bien. Voilà.
Bon, j'espère que vous ne souffrez pas trop ce soir et que vous
peut-être,
avez...
Peut-être, ça se peut.
Mais c'est peut-être une souffrance positive, c'est ça que vous allez nous dire, Père René Pichon. C'est ça ?
Oui, oui.
Souffrance positive, bon. Et ça pose donc la question de l'endurance aussi. Comment est-ce qu'on est endurant ? Comment est-ce qu'on persiste ? Jason Nyoka, vous, l'endurance, en tant que judoka et en tant que séminariste, comment vous la percevez ?
Tout d'abord, l'endurance, c'est vraiment notre capacité à résister à la fatigue et à la souffrance. Donc, oui. On parle de souffrance. Je vais dire, d'une certaine manière, l'endurance, c'est qu'est-ce que je vais mobiliser pour pouvoir résister à la souffrance et à la fatigue. Et c'est vrai que dans un entraînement, on le voit bien, pour qu'un athlète puisse être endurant, c'est tout un programme, j'ai envie de dire. Mais c'est tout un programme qui se répercute aussi, je pense, dans notre vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, qu'est-ce que je vais mettre en place aussi pour résister à tout ce qui est fatigue, souffrance ? Classiquement, dans une vie de sportive, on va travailler, par exemple, on va faire un peu plus de musculation, on va travailler peut-être un peu plus le fond, on va faire un peu d'intermittent. Et peut-être que, d'une certaine manière, par analogie, on peut faire la même chose aussi dans notre vie spirituelle. Peut-être prier un peu plus, jeûner. Le carême arrive bientôt, mais c'est qu'est-ce qu'on met en place ?
Vous êtes d'accord, Père René Pichon ?
Sur quoi ? Sur le jeûne ?
sur ces notions d'endurance et le fait que parfois il faut prier plus, parfois il faut jeûner.
Moi, c'est absolument... Oui, absolument. Et puis c'est vrai dans la vie pastorale aussi. Hein. Voilà, la vie pastorale, moi j'ai fait toute ma vie de l'aumônerie de jeûne. C'est un sacré sport, hein, parce qu'il faut les supporter, des fois. Surtout quand on fait des camps, les nuits ne sont pas toujours des nuits monastiques, etc. Donc, si on n'a pas fait... Moi, je pense que si je n'avais pas fait de sport, je n'aurais pas pu faire autant de camps, de sorties avec les jeunes, et puis rester jeune. Parce que c'est un peu ça aussi. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est quand même ça.
Ça, c'est pour l'endurance. Il y a aussi la notion de code moral dans le sport. Il y a aussi cette notion de fair play. On l'a évoqué à mi-mot tout à l'heure. Peut-être Jason Nyoka aussi, ce code moral, est-ce qu'il répond lui aussi à des valeurs spirituelles ?
En tout cas, ouais. Le code moral du judo, comme modestie, politesse, sincérité, amitié, contrôle de soi, courage, respect et honneur, c'est vraiment ce à quoi, je sais que quand j'avais 3 ans, c'est ce que mes profs de judo ont vraiment voulu m'inculquer. Mmh. Comment le judoka a une vraie pédagogie dans le judo. C'est une vraie éducation, comment être, et c'est même ce que voulait Jigoro Kano, celui qui a inventé le judo au départ, c'est comment faire pour que le judo puisse nous emmener à être une très bonne personne, nous donner des valeurs pour être quelqu'un de bien et nous tirer vers le bien, nous tirer vers ce qui est bien et bon, ce qu'on disait tout à l'heure. Comment cette recherche de tout homme, qui est de rechercher ce qu'on appelle la béatitude, ce qui nous tend vers ce qu'il y a de plus haut, vient se rencontrer avec ses valeurs. Donc, moi, je dirais que ces valeurs que le judo peut transmettre, elles ne sont pas en contradiction avec cette recherche du bien qu'on peut rechercher, notamment dans notre vie de foi.
Et donc alors, comment ça parle au monde ? Parce qu'il y a aussi un enjeu, et Holy Games en est un bon exemple, de dialogue avec le monde, un monde qui ne croit pas, pour qui la spiritualité est très éloignée. Peut-être, je serais preneur de vous entendre, Père René Pichon, sur vous avez vécu ce moment un peu étonnant, vous étiez séminariste ou prêtre, et en même temps, vous étiez membre d'un club, et membre d'un club d'athlétisme. Comment est-ce que, en rejoignant des éléments que les gens connaissent, la notion de dépassement dans le sport, la notion d'endurance, la notion d'exercice physique, comment on arrive aussi à leur faire cette proposition, explicite ou pas, de l'annonce de la foi ?
Eh bien, la proposition explicite, c'est d'abord, comme vient de le dire Jason, là, c'est d'abord parler des valeurs. avant même de parler de Dieu, ou en en parlant, c'est dire, et ça justement, ça rejoint ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, nous, l'Église, il faut à tout prix qu'on redonne une âme au sport d'aujourd'hui qui a dégénéré dans l'argent, dans la performance, dans le dopage, dans la violence, enfin, etc. Quand on voit les matchs de foot, la violence et tout, mais c'est plus du sport tout ça. Donc nous, il faut redire qu'est-ce que le sport. Le sport, et donc ce que vient de dire Jason, moi j'ai rencontré beaucoup d'aussi, on avait fait un groupe de sport et spiritualité sur Chambéry avec beaucoup de le judo, etc. Eh bien, les entraîneurs me disaient, mais non, on ne parle plus de ces valeurs. Ce que tu as cité, on ne sait que de la technique. Le sport devient purement technique, purement mécanique. Et l'âme, pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas une machine de performance. Qu'est-ce que ça produit en toi? Est-ce que ça t'élève, l'élévation, la spiritualité? Moi, c'est ça. Hein, moi, donc, l'effort gratuit, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même qui peut rejoindre la foi. La foi, ça ne sert à rien non plus. Hein? À quoi ça sert la foi? Ça ne va pas nous donner un meilleur métier, ça ne va pas nous donner même des honneurs. Ça va... Donc, tout ce qui est gratuit, c'est ça qui constitue l'homme. Croire gratuitement, se dépenser gratuitement. D'accord? Et puis, il y a toujours le problème du sport, c'est que quand on rencontre plein de gens, donc on discute de tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, je suis prêtre. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu pour toi. Donc, à ce moment-là, c'est dans les rencontres, dans les relations, et surtout, par exemple, dans les déplacements, dans les stages, quand on est ensemble. Le jour d'une compétition, c'est un peu difficile de parler de la foi. C'est pour ça que même dans les manifestations comme les Jeux Olympiques, c'est vrai que quand t'es concentré sur ta performance, t'as pas trop l'envie de parler d'autres choses. Donc, mais par contre, il y a d'autres moments. Il y a des moments de convivialité, il y a des moments d'entraînement, il y a des moments où on est ensemble, là on discute de tout, et du coup on peut parler de notre foi. Et puis, quand on est prêtre comme moi je l'étais, que je le suis toujours d'ailleurs quand même, eh bien, il y a aussi, à tout moment, il y en a un qui, dans un club, dit « tu veux pas préparer le baptême de mon enfant ?» ou beaucoup de sépultures aussi, parce que maintenant j'ai aussi pas mal comme l'entraîneur de Pierrot Carraz, l'entraîneur de Christophe Lemaître, hein, ben c'est moi qui ai fait sa sépulture. Et donc, à cette occasion, quand il y a plein de gens qui sont là pour le défunt, quand on parle de Dieu, comme peut-être celui qu'on rencontre aussi, quand on dit on se dépasse, on va dans l'au-delà de soi-même. Mais l'au-delà de soi-même, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un ou c'est quelque chose? Ben moi, je dis, ben voilà, l'au-delà de soi-même, c'est Dieu. Voilà, c'est un état spirituel, c'est l'au-delà de soi-même. On entre dans un monde spirituel, hein, et puis, faut mettre, moi pour moi, il y a une source il y a une source qui est Dieu, je le reconnais comme Dieu, et puis je le dis. Voilà, donc c'est à ces occasions-là qu'on peut le dire. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'écoute dans des célébrations comme ça. Voilà.
Jason Yuka, comment la pratique sportive peut être là aussi le déploiement, le terreau d'une pratique spirituelle, le terreau du déploiement de la foi? Comment peut-être dans votre cas même, Jason?
Pour répondre à cette question, c'est vrai que depuis que je suis dans cette mission avec Holy Games, j'ai un peu une réflexion personnelle, notamment sur mon expérience. Et je reprends un peu un terme qui est commun à l'Église, mais souvent quand on rentre au séminaire, on vit une année de propédeutique. Et donc moi, j'aime bien dire que le sport de haut niveau est une propédeutique pour la foi. Une propédeutique parce que la propédeutique est un peu une année de fondation. Et je dirais que moi, ma vie de sportif de haut niveau m'a permis vraiment de poser un peu les jalons de ma foi et de mon itinéraire. Je peux donner plein d'exemples. On a parlé de la souffrance, on a parlé de l'endurance, on a parlé de l'entraînement. Et donc, de la vie spirituelle, des exercices. Et donc, je dirais que la manière dont j'ai été préparé dans tout mon parcours de sportif de haut niveau, une fois que j'ai dû, d'une certaine manière, m'élever, en tout cas laisser la foi élever un peu tout ça, et ben j'étais prêt, en fait. Prêt parce que, d'une certaine manière, mes capacités physiques, mon intelligence, allaient vers quelque chose qui n'était pas nouveau. Au contraire, il y avait déjà ce terreau qui était prêt à accueillir et même transcender. Moi, j'aime bien parler de transfiguration. Je dirais que tout mon patrimoine, tout ce qui m'appartient, a été un peu transfiguré pour l'élever vraiment et vivre une foi de chrétien. Voilà.
Et c'est ce qui vous a permis, peut-être le sport aussi, d'être totalement uni, corps, âme, esprit. il y a une notion aussi dans le sport d'incarnation et de physique, de sensation physique.
Oui, bien sûr. Comme je peux dire aussi, le sportif de haut niveau, il y a un vrai travail d'introspection. Au
Pourquoi
sens où on est constamment remis en question. Constamment, on s'analyse, constamment, on a un regard sur nous-mêmes, constamment, on a quelqu'un qui pose un regard sur nous, objectif, qui des fois peut-être un peu blessant, mais qui nous permet, j'ai envie de dire, d'avancer. Et donc, tous ces regards-là, la manière dont moi-même je réfléchis sur moi-même, me permet vraiment de me connaître et du coup d'apprendre à voir ce qui va être le meilleur pour moi et du coup d'une certaine manière d'intégrer et de voir ce que mon corps et mon âme ont besoin, ce que j'ai besoin pour ce moment-là. Et je pense que ça conduit vraiment à unifier la personne, unifier pour mieux me donner dans ce que je vais faire plus tard.
Vous dites qu'il peut y avoir une analogie entre l'entraîneur du sportif et peut-être l'accompagnement spirituel, alors.
Plus ou moins, je ne vais pas dire ça, parce que je veux parler. Il y a un évêque dans la salle, donc je ne vais pas dire ça. Mais... mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'entraîneur est aussi un guide, d'une certaine manière. L'entraîneur est celui qui oriente, qui normalement nous aide à faire les bons choix pour progresser, pour avancer. Ce qui est un peu le rôle de l'accompagnateur. L'accompagnateur nous guide, il ne nous dit pas ce qu'il faut faire, à la différence de l'entraîneur, mais il nous aide à pouvoir grandir dans le Seigneur.
Père René Pichon, vous avez accompagné beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez essayé de révéler chez eux leurs talents comme votre entraîneur quand vous étiez sportif de haut niveau a essayé de révéler vos talents?
Le rôle d'un entraîneur, d'un accompagnateur, c'est ça, c'est de révéler les talents, mais surtout de donner la foi. Il faut que tu y crois. Il faut que tu y arriveras. Il faut que tu y crois. Et souvent, on dit, vous entendez ça, hein, si j'y avais cru, j'y ai cru. Alors, quelle est cette foi? Si tu n'as pas cette foi, tu ne réussis pas. Et des fois, souvent, on entend cette année, j'y ai cru, donc la foi, voilà. Mais je voudrais revenir sur le corps et l'esprit, simplement faire une petite remarque. Moi, c'est ce qu'on appelle en sport la sensation. La sensation, quand un sportif, on s'entraîne, on est lourd, le corps, il est pesant, on n'y arrive pas. Puis après, à force d'entraînement, on commence à avoir des sensations. Et le sommet de la sensation, c'est l'état de grâce. Donc, ça veut dire que la sensation, c'est le corps et l'esprit qui ne font plus qu'un. Hein, au lieu le corps pesant qui te devient un corps léger, et donc il est spiritualisé en quelque sorte. Ça, c'est intéressant et on le vit. Alors on le vit pas toujours parce que justement, on s'entraîne puis ça va pas trop. Puis après ça revient. Voilà la sensation. Voilà. Et justement, les entraîneurs souvent ils sont là. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, et tu vas retrouver tes sensations. Et puis ils nous donnent la foi, et puis on y arrive. Puis après, on recommence un autre cycle, mais voilà, c'est comme ça.
Et si on continue à évoquer cette unité corps, âme, esprit, comment s'exprime-t-elle chez saint Paul aussi? Si on revient au texte, à nouveau, on est aussi ici au Bernardin, en faculté Notre-Dame, on ne peut pas trop s'échapper des textes. Qu'est-ce que saint Paul dit de cette unité? Vous disiez tout à l'heure que saint Paul dénonce ceux qui ont une certaine glorification du corps. C'est donc qu'il y a un danger aussi à trop faire de sa pratique sportive uniquement un objectif de glorification du corps.
C'est-à-dire saint Paul prend des métaphores. Et je ne crois pas qu'il y ait de système à ce niveau-là. C'est une utilisation de métaphores parmi d'autres. Il y a d'autres métaphores pour dire, l'itinéraire avec Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas trop... Mais disons, de fait, chez saint Paul, il y a cet élément-là. Mais ce n'est pas... Le discours, les métaphores sportives chez Paul sont très présentes. Le discours est très présent, il est continu. Mais il n'est pas, disons, un discours en soi. Il est accroché à d'autres discours. Donc, c'est pas... Saint Paul, par exemple, est un grand sportif lui-même. Bon. Bah oui, oui, il a fait, selon les calculs qu'on a pu faire avec des historiens de l'époque, il a fait entre, disons, 3000, au minimum, entre 3000 et 7000 kilomètres.
À pied.
À pied.
Ah oui.
Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Alors, donc, il y a ça. Il y a le fait que, non seulement, il a fait 7000 kilomètres, mais il a aussi, il a eu des journées où il n'a rien mangé. Donc, il y avait une assaise. Pour durer et pour faire, pour aller d'un endroit à un autre, d'une ville à l'autre, avec les voies romaines, même si les voies romaines étaient des voies, disons, assez sûres, il fallait pas être tout seul, il fallait être en groupe. Et donc, il y a un certain sport. Et donc, quand il parle de sport, il
sait appuie. De quoi il parle.
Voilà, il sait de quoi il parle.
Mais c'est pas lui qui dit glorifier Dieu dans votre corps.
Pardon.
C'est pas Paul qui dit, saint Paul, glorifier Dieu dans votre
tout
corps.
Tout à fait.
Eh ben alors.
Tout à fait.
Donc il y a quand même chez saint Paul l'idée de glorifier le corps.
Ou pas. Non, il de glorifier non, Dieu, non, mais pas le corps.
Dit, il dit, ce qu'il dit, c'est que glorifier, non pas son corps,
oui,
mais glorifier Dieu par notre corps, c'est voilà. Notre manière de vivre.
Voilà.
Voilà, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi son corps, c'est ça que ça veut dire. Bon, donc, mais ça, ce n'est pas de la gymnastique ni du sport, mais c'est simplement une manière de dire que, notre corps n'est pas fait pour faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, il est fait pour le Seigneur. Alors, mais il y a quand même une chose qui est importante chez saint Paul, c'est donc de reconnaître que le sport est très, très important, parce qu'il le vit au jour le jour, hein, de ville en ville et dans l'insécurité. Il y a une insécurité fondamentale pour ces gens qui sont baladés dans l'Asie mineure, la Grèce, l'Italie, etc. La Gaule, ce sont des gens qui ont su ce que c'était que l'endurance, que la persévérance, la ténacité, etc. Mais disons, c'est pas un discours qui chez saint Paul est premier. Voilà, il est second. Il est au service d'autre chose. Alors, il est important, mais disons, on n'a pas de. Moi, j'ai montré ça dans un article, parce qu'on m'a demandé de faire un article là-dessus sur les métaphores sportives chez saint Paul, qui est très, très intéressant comme chose. Mais disons, on a une réflexion, disons, de saint Paul, où il utilise les métaphores sportives pour dire autre chose. Il n'en reste pas au sport.
Tout à l'heure, on disait que parfois la foi pouvait être un moyen aussi d'annonce, que le sport, pardon, pouvait être un moyen d'annonce de la foi. C'est aussi donc ce que faisait saint Paul.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. La manière. Et je pense que pour saint Paul, le fait même, disons, d'avoir des chrétiens qui soient robustes comme lui, donc qui n'aient pas peur des efforts et qui, mais qui le font pour le Seigneur, pour etc. Donc, qui sont orientés au niveau christologique, c'est très, très important. Donc, il y a une insistance sur, disons, l'entraînement, même corporel. Hein, donc, la métaphore sportive, elle n'est pas simplement métaphore. Elle est basée sur une expérience assez radicale. Mais, disons, je pense que, si vous voulez, les métaphores sportives chez Paul sont basées sur le fait que, pour saint Paul, le corps est quelque chose de noble. C'est-à-dire que notre corps est fait pour la gloire. Et que donc, dire que le chrétien, n'est-ce pas, le corps c'est quelque chose de mauvais, d'infiniment, ça c'est pas saint Paul du tout. Donc, le corps, il est noble. Et parce qu'il est noble, justement, il faut qu'il se comporte de manière noble. Et le sport est une manière de rendre, disons, au corps sa véritable dignité. Et donc, c'est tout, quoi. Mais c'est très important, ça. Parce qu'au-delà même de l'utilisation des métaphores, il y a un rapport de Paul au corps. Notre corps, il fait pour la gloire. Et donc, on ne peut pas, puisqu'il est fait pour la gloire, on ne peut pas lui faire n'importe quoi, mais on peut l'entraîner, justement, à se préparer à la gloire. Bon, moi, je pense que c'est quelque chose qui est second, mais qui est dépendant de cette... On a, si vous voulez, chez Paul, non pas une anthropologie, mais une christologie anthropologique. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a une idée du Christ glorieux qu'on va raisonner sur le corps. Et sur la manière dont le corps, doit fonctionner. Voilà. Donc, tout ce qui va dans ce sens-là est utilisé par Paul. Alors, il y a d'autres métaphores, Et puis celles-là sont... Alors elles sont quand même plus importantes que d'autres métaphores, puisqu'on constate que dans toutes les épîtres de Paul, il est question de sport. Donc ça veut dire que c'est important pour lui. Alors c'était d'autant plus important que tous les gamins de l'époque passaient par le gymnase, ou par les pro-gymnases, au moins par les pro-gymnases matin. Parce que pour aller au gymnase, il fallait avoir de l'argent. Et donc beaucoup de familles pauvres ou, disons, n'étant pas riches, ne pouvaient pas envoyer leurs enfants au gymnase, parce que, le gymnase, les années gymnase allaient jusqu'à 24 ans, 25 ans. Donc il fallait quand même avoir de l'argent pour se permettre, disons, d'aller au gymnase. Mais disons, les pro-gymnases matin, c'était bourré de gymnastique, d'entraînement, de sport, etc. Donc ils ne pouvaient pas négliger cet aspect-là.
Donc que ce soit chez Saint-Paul ou dans votre expérience, Jason Gnocca et Père René Pichon, je crains bien que la conclusion, là, c'est qu'il faut se mettre au sport pour prendre soin de notre vie spirituelle.
Oui, exactement. Il faut se mettre au sport pour prendre soin de sa vie spirituelle, parce que quand on fait du sport, on se pose des questions, on réfléchit et on médite. Moi, quand on fait du footing, ou quand on va en montagne, ça dépend où nager, où on, plus on fait de sport, plus on fait travailler l'esprit, parce que voilà, l'esprit s'envole et puis on médite, on réfléchit et puis. De temps à autre, on se dit, mais pourquoi je fais ça aussi quand même? Hein? Pourquoi je fais ça? Surtout quand on réussit pas, pourquoi je fais ça? Donc après, on se dit, mais ça me construit, même si j'ai moins de résultats, etc. Donc voilà.
Voilà une heure qu'on est ensemble. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions de la salle pour éventuellement dialoguer aussi si ce qu'on a évoqué ce soir, il y a eu pas mal de mots-clés, vous les avez entendus. Si vous avez des questions, vous levez bien haut la main. La première question est toujours difficile à poser, mais il faut que la discussion s'enclenche. Et on n'a pas on a proposé à personne de poser la première question en l'écrivant sur un bout de papier. Donc n'hésitez pas à lever la main bien haut et à poser votre question. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle. C'est bien ça, je me tourne vers la pilote qui est ce soir, qui nous accueille. Pendant que la première personne, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, et il y en a déjà dans la salle, moi j'ai une question quand même pour le père Aletti, une question qui me brûle les lèvres depuis une demi-heure, c'est quoi l'évergétisme ?
Alors
je l'ai noté, parce que je crois que j'ai eu la définition. L'évergétisme.
Ah, l'évergétisme.
C'est le mécénat en fait, c'est l'ancien nom du mécénat.
L'évergétisme. Alors, ça vient du grec. Hein. C'est un mot qui a été créé par Irénée Maroux. Ça vous dit quelque chose ? Donc, qui a créé ce mot-là. C'est un néologisme qui vient de chez nous, de bon français. C'est-à-dire que l'évergétisme, en grec, ça veut dire c'est le bienfaiteur, l'évergète.
On n'a pas de micro.
C'est le bienfaiteur. Et l'évergétisme, c'est la bienfaisance. Sauf que, pour la distinguer d'une bienfaisance normale, vous avez, par exemple, des bienfaiteurs. Alors, Monsieur X va donner quelque chose à Monsieur Y. Ça, c'est de la bienfaisance.
On cherche un micro, c'est pour ça qu'il meuble.
Vous m'entendez quand même, non ?
Oui, non, mais vous, on vous entend bien.
Mais l'évergétisme, ça évite le rapport de X à Y. C'est-à-dire que X va faire du bien, mais pas à Y directement, pour ne pas créer un certain clientélisme. Donc l'évergétisme, c'est une institution qui fait qu'un homme riche va donner de l'argent à un groupe, jamais à un individu, pour éviter justement le clientélisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'évergétisme a été évité par les chrétiens, parce que comme les premières communautés étaient de type associatif, dans les associations à l'époque, les riches n'avaient pas le droit d'avoir ceux qui étaient objets de bienfaisance. Donc, ils donnaient à l'économe de la communauté, lequel économe distribuait, sans que le riche le sache, l'argent du riche à qui il le désirait, pour que le riche n'ait pas de rapport et l'autre n'ait pas à demander et à remercier et à dépendre de son bienfaiteur. Donc, l'évergétisme est une institution très importante pour éviter l'attachement de celui qui reçoit à celui qui donne.
Et voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Je suis désolé. Merci d'avoir meublé. Vraiment, bravo. Je crois qu'on peut vous applaudir quand même. Parce que 3 minutes, le temps qu'on aille chercher un micro. Et donc, on peut revenir à notre sujet du sport après avoir parlé de l'évergétisme, très compliqué à prononcer. Il y avait des questions tout à l'heure dans la salle. Pour revenir à nos thématiques sur le sport et la spiritualité, levez bien haut la main. Il y en a deux là-bas. Et il y a un micro qui circule dès à présent. Moi, je suis impressionné de votre capacité, Père Jean-Noël, à nous lancer là-dessus. Et on dira après comment ça s'écrit. C'est E-V-E-R-G-E-T-I-S-M-E, quelque chose comme ça. Oui. Et le micro qui arrive. Je vous propose de vous lever et de dire votre prénom, nom, comme ça on sait qui vous êtes, et vous de poser votre question.
Bonsoir, je m'appelle Suliac. Donc j'ai repratiqué depuis peu, hein, ça fait un an et demi à peu près. Et donc mes sources ne sont pas forcément, j'ai pas l'évangile exact, mais il est dit, donc Jésus dit que ce qui rentre dans notre bouche qui est impur, c'est ce qui en sort suite à donc dans le contexte, ça devait être au sujet de ce qui venait de l'Ancien Testament sur ce qu'on disait sur l'alimentation. Et moi je trouve que de mon retour à la foi, donc c'est parce que j'étais en quête et j'ai trouvé dans la foi ce que je cherchais, mais il y a quelque chose qui m'a déçu, pardon, je suis encore en recherche, et je trouve qu'Oligaïs m'apporte des réponses. C'est la relation à son corps et à l'alimentation et à sa physiologie. Et en fonction de ce que l'on mange, en fait, on peut être dans une souffrance qui est une souffrance négative si on mange mal au quotidien. Et je trouve que moi, dans les paroissiens de la paroisse où je suis, qui est celle de Saint-Denis, parfois, la relation, par exemple, à l'alimentation peut nous éloigner de l'amour pour notre prochain et nous fatiguer au quotidien, nous rendre la prière très difficile. Et voilà. Alors que quand on fait du sport, quand on est conscient de ce que l'on mange, on sait le pouvoir que ça a sur notre capacité à être lucide, à être conscient, à être connecté, enfin, ou à ressentir potentiellement l'Esprit Saint. Alors que si on a notre chair qui est pleine, je ne sais pas comment dire, eh bien, on se sent vraiment mal. Et ça, l'évangile apporte peu, très peu, de réponses à ce sujet. Et une hypothèse que j'ai, c'est aussi qu'à l'époque, ils n'avaient pas accès à autant de cochonneries qu'à notre époque. Et je pense que leur nourriture les comblait bien plus tôt que nous, elle nous comble. Voilà. Merci.
Sur l'alimentation, est-ce que vous avez un mot à dire ?
Moi, je peux répondre en partie. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on regarde autant du Christ, hein, premier siècle de notre ère. Au niveau alimentaire, là, il y avait une différence totale entre les pauvres et les riches. La plupart des gens ne mangeaient pas de viande pendant des jours et des semaines. Bon, donc on prenait du poisson, parce que le poisson à l'époque était moins cher. Et quand on était au bord d'un cours d'eau ou d'un lac, on pêchait et puis on s'en tirait. C'est pour ça que les gens se baladent avec le Seigneur avec du poisson grillé. Je ne sais pas si vous voyez, au point de vue odeur. Bon, quand vous baladez pendant 30 km avec un poisson grillé, à la fin, vous êtes content d'avoir une autre odeur. Donc, il y avait un problème énorme au niveau alimentaire. Et donc, le problème alimentaire, il est constant, n'est-ce pas, dans les siècles qui ont précédé le christianisme. Et même après. Donc, on ne mangeait bien finalement qu'en Égypte à l'époque. Pourquoi ? Parce que l'Égypte était le grenier de l'Empire. Mais les autres, beaucoup de gens ne mangeaient pas à leur faim. Et donc, il y a un problème. Alors, on en parle peu. Je pense qu'on en parle peu dans les évangiles parce que, justement, le principe, c'est de dire les riches donnaient un peu aux pauvres pour qu'ils puissent casser la croûte quand même un peu mieux. Voilà. Donc c'est toujours du rapport entre ce dont le riche peut se permettre, parce qu'il a de l'argent. Pas toutes les paraboles de Jésus sont de ce type-là. Hein. Bon, le gars qui a tout et puis Lazare qui n'a rien, etc. Donc on a des problèmes qui sont de l'ordre et qui font que la misère, elle n'est pas dans la suralimentation, mais dans la sous-alimentation. Parce que ceux qui étaient suralimentés, c'était même pas 1% de la population. Donc les riches, c'était vraiment rien du tout. Hein, au point de vue, c'était 1% à peu près. Voilà. Donc les gens ne mangeaient pas à leur faim. Et donc ça posait des questions aussi pour l'entraînement, pour au niveau, je ne sais pas, j'ai pas fait...
En un mot, est-ce que l'alimentation est nécessaire pour une dame ?
On peut pas, c'est sûr que quand on s'entraîne et qu'on veut arriver à certaines performances, on ne peut pas manger n'importe quoi. Donc. Mais actuellement, il y a beaucoup plus de recherches sur l'alimentation que moi, à mon époque. Ouais. Donc nous, on faisait attention à ne pas manger des choses lourdes, etc., grasses, etc. Donc il y a un certain régime qui va avec le sport. Mais il n'y a pas, on n'avait pas encore tel aliment ou tel... On ne s'était pas encore calculé pour améliorer nos performances, vaut mieux manger ça, etc. On faisait un régime pour mieux, pour être bien, mais pas forcément pour être performant. Quoi, voilà.
Est-ce qu'il... Je sais pas s'il y a un régime. Tu veux en un mot, Jason ?
C'est vrai que moi, le judo est un sport avec des catégories de poids.
Ah oui.
Et notamment où la perte de poids était importante. Moi, je sais qu'il m'arrivait de perdre 3 à 4 kilos avant une compétition. Et c'était assez intéressant de voir que on était suivi par des diététiciens pour suivre un régime assez strict et pour perdre les grammes ou les kilos qu'on avait et être en forme. Et c'est là qu'on voyait bien que la manière dont on avait proportionné les aliments qu'on avait pris avait d'une certaine manière une influence sur notre performance au bout, parce que quand on avait reçu les nutriments nécessaires, et on voyait bien qu'on avait beau perdre 3-4 kilos, et il y avait le facteur de blessure notamment était réduit. Là où pour des personnes qui avaient peut-être une mauvaise alimentation ou ont suivi un mauvais régime pour la perte de poids en compétition, il y avait un facteur blessure qui était beaucoup plus important.
Y a-t-il d'autres questions ?
Oui. Ouais. Alors, Jean-Vier pour Holy Games. Alors moi, j'avais une petite question, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'exercice physique dans la pratique sportive et aussi dans la foi, où on va retrouver cette forme de souffrance qui peut mener au dépassement de soi. Mais on n'a pas forcément parlé de la souffrance négative. Est-ce que le manque d'exercice physique, est-ce que la paresse, chercher la facilité, peut conduire à une certaine souffrance ?
Ben pourquoi ? Moi, je dirais que c'est la paresse, c'est évident que tout devient pénible. Plus on est paresseux, plus on devient pénible, plus les moindres choses deviennent pénibles. Voilà, s'il faut monter des escaliers pour aller chez soi, oh là là, parce qu'on, alors que quand on est sportif, qu'on s'habitue, je dirais presque plus rien n'est pénible, hein, voilà. Donc ça donne une condition physique qui fait que, et puis morale aussi, parce que je pense que le sport aussi c'est la souffrance psychique quand on a plein de difficultés, voilà. Alors que le sport, ça apprend à affronter les difficultés. Le sport, on se donne des difficultés qu'on n'a pas. Pourquoi vouloir faire des kilomètres alors qu'on peut rester chez soi, etc. Donc, ça apprend à affronter les difficultés de la vie, c'est-à-dire ça devient un défi. Donc voilà, le sport, j'ai tel deuil, je vais rebondir pour repartir. Donc c'est une mentalité, hein. Donc voilà, moi je dirais que la paresse, oui, moins on en fait, moins on peut en faire. Vous savez tout ça. Donc après, tout devient pénible. Voilà, moi, c'est ce que je dirais. Je ne peux pas, parce que je dirais autre chose.
Un mot sur la paresse. Eh bien, les gens ici ne sont pas paresseux, parce que par exemple, on n'a que des sportifs autour de la table, sauf moi. y a-t-il d'autres oui.
Le père Gilles Morin, religieux de Saint-Vincent de Paul, aumônier de la FSCF. Jason a lié deux mots, le pape François l'a fait également, le sport, le jeu. Voilà. Le sport qui doit être un jeu.
Oui.
Est-ce que, on pourrait un petit peu développer, préciser, mettre un petit peu en valeur ce lien, le sport qui doit être du domaine un peu du jeu, hein, qui n'exclut pas la compétition. Et puis l'autre dimension qui a été évoquée, la souffrance, mais le plaisir aussi. Voilà, le plaisir dans le sport-jeu. Quoi.
Jason, c'est toi qui avais commencé. Est-ce que tu veux commencer ou Père René Pichon ?
C'est-à-dire que là, c'est aussi, ça fait partie des choses, tu l'as dit, je crois, ça fait partie des choses que nous, l'Église, on devrait dire aux sportifs d'aujourd'hui, retrouver le jeu. Parce que ça devient tellement important, le sport, ça, et les résultats surtout, que c'est plus un jeu. Et quand on voit, par exemple, les matchs de foot, avec toute la police qu'il y a, est-ce que c'est encore un jeu ? Quand on voit tout ce qui se passe, donc ça veut dire qu'il faut relativiser le jeu. Pour moi, le jeu, ça veut dire qu'il faut relativiser. Il faut relativiser ce qu'on fait. Et donc, le sport doit rester un jeu. Et puis alors, dans l'idée de jeu, il y a aussi l'idée de plaisir. Voilà, donc il faut aussi que ce soit un plaisir. Mais alors, ça dépend. Là aussi, il y a le plaisir facile et il y a le plaisir difficile. C'est comme pour la souffrance, il y a le plaisir, je dirais, voilà, négatif. Alors le plaisir négatif ou le plaisir facile, ben voilà, je mange, je bois, je m'amuse, etc. Bon, donc, mais le plaisir difficile, c'est le plaisir qui passe par la souffrance. Parce que tous les sportifs qui disent, ceux qui font des trails aujourd'hui de 100 km et plus, ah, oh, c'est pour mon plaisir. Il faut voir comment ils en bavent quand même. Et donc, c'est un autre plaisir, c'est le plaisir d'exister. C'est le plaisir de devenir plus grand que soi-même. C'est le plaisir d'entrer dans l'au-delà de soi-même. Voilà, c'est le plaisir de toucher notre réalité, de devenir ce qu'on doit, ce pour quoi on est fait. Moi, c'est ça le plaisir. C'est un plaisir existentiel, quoi. C'est pas le plaisir banal d'un repas, d'une boisson, etc. Donc voilà. Donc le jeu et le plaisir. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut. Ça reste un jeu. Voilà.
Dans la notion de jeu, il y a aussi la notion de quelque chose d'enfantin ou en tout cas de pas pris au sérieux. Il y a quelque chose de l'ordre de.
Oui, mais il y a aussi dans l'idée, dans le jeu, il y a aussi un peu l'idée de hasard. On ne sait pas pourquoi on gagne. Quand on joue aux cartes, pourquoi j'ai des meilleures cartes que l'autre? Oui. Donc, il y a quand même cette idée aussi de s'ouvrir à ce qu'on reçoit, qui ne dépend pas de nous. Hein. Voilà. Je gagne. Bah, je ne sais pas pourquoi j'ai gagné, parce que je n'ai rien fait pour gagner. J'ai eu des bonnes cartes, par exemple. Voilà. Donc, il y a cette idée d'être ouvert à quelque chose qui vient d'ailleurs.
Tézanne, vous disiez que vous aviez commencé le judo quand vous aviez 3 ans par nature. En fait, la majeure partie du temps, vous avez vu le judo comme un jeu, en fait.
Oui, c'est vrai qu'à 3 ans, quand on commence le judo, bah, on s'amuse. Enfin, on se dit, voilà, le but, c'est un peu de faire tomber son partenaire, de le faire sortir un peu des zones du tapis. Et donc, je pense que du coup, cette dimension du jeu, elle appelle peut-être quelque chose d'enfantin, comme vous l'avez dit. Mais je pense qu'elle renvoie une forme de simplicité qu'on a perdu dans le sport, et notamment avec le fait que le sport devienne quelque chose de très professionnel, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent dans le sport. Donc je pense que le jeu appelle peut-être cette dimension plutôt de simplicité. Comment faire pour que le sport revienne à des choses beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus simples, et donc du coup, bah, c'est qu'est-ce qu'on met en place. Et donc je pense que la notion de plaisir est très importante. Moi, je me souviens que dans mon itinéraire un peu personnel, les moments où j'ai pensé vraiment arrêter au judo, bon, avant de rentrer au séminaire, eh ben, je me rendais compte que je prenais plus plaisir à faire judo. Et ça, beaucoup d'athlètes peuvent le dire. Beaucoup d'athlètes peuvent dire que si aujourd'hui ils continuent, c'est parce qu'ils ont toujours ce plaisir de s'entraîner, ce plaisir de se donner. Donc je pense que les deux sont quand même liés. Comment aujourd'hui, même dans une pratique assez importante, comment garder et cette dimension du jeu et du plaisir pour performer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au deuxième rang.
Oui, bonjour, Olivier d'Holly Games pour les Jeux paralympiques. Une question, un éclairage justement sur les personnes en situation de handicap. Donc le père Pichon a parlé de se battre contre les autres, mais c'est déjà aussi se battre contre soi-même.
Hein.
Et puis le père Aleti, c'est la question du corps et de la dignité. En fait, je crois est-ce que vous pouvez justement apporter un peu plus d'éclairage ou un point de vue entre effectivement le corps quand on est handicapé et se dépasser soi-même. Nous avons eu la chance avec Isabelle de Châtelut de rencontrer Marie-Amélie Le Fur, donc qui s'occupe des Jeux paralympiques, et justement nous parler de cette histoire. Il faut avoir la foi dans ces cas-là. Merci.
Bien, moi je pense que la mentalité de ceux qui ont un handicap, c'est justement de lutter contre des limites, de lutter pour être comme les autres. Ils ont une mentalité sportive, et moi je trouve ça admirable. Et ils se battent pour arriver à faire beaucoup plus que ce qu'ils peuvent faire vu leur handicap, et ils réussissent. Donc moi je pense que c'est un peu la même. C'est une mentalité sportive. Sans même faire du sport, alors en plus forte raison, maintenant il y a les Jeux paralympiques, mais tous les handicapés, ben, ils sont obligés de, ou ils subissent, ou alors ils se battent pour être comme les autres, pour accéder, pour avoir un peu, pour arriver à faire ce que les valides font, comme ils le disent. Oui. Moi, J'avais écrit mon premier livre, j'avais écrit Le sport et la foi. J'avais des chapitres sur des sportifs qui m'avaient marqué du club. Et j'avais fait un chapitre qui était fait à propos d'un jeune handicapé que j'ai eu à l'aumônerie et qui est mort maintenant. Donc, à 13-14 ans, il était encore sorti avec nous. Puis après, à 17-18 ans, il était sur fauteuil roulant. Et bien, il avait une mentalité de sportif. Hein. Voilà, il se battait. Et j'ai dit, ben, c'est un peu la même chose. Donc, sportif et le sport et le handicap, ça va ensemble. Si, justement, on est tenace, si on se bat, si on ne subit pas, si... Voilà.
Chez Saint-Paul, il n'y a pas de... Vous n'avez pas en particulier de métaphore liée au handicap aussi.
Sur le handicap, non. Il y a pas de...
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, oula, il y a plein de bras qui sont levés subitement. Alors, il y a des politesses qui se font. Bonsoir.
Bonsoir, je suis Marie-Odile. Et en vous écoutant attribuer la notion de jeu dans le sport... J'ai établi un parallèle avec le sport intellectuel. Et je me demandais si un sportif de haut niveau, quand il respectait toutes les valeurs que vous avez mises en avant, est-ce qu'il y avait dans son intellect les mêmes valeurs, le même travail qui était fait dans le cerveau, quoi. Enfin, je m'exprime mal. J'ai fait le parallèle avec les mathématiques qui sont un jeu.
C'est une forme de sport aussi.
C'est un sport parce qu'il y a beaucoup de plaisir à trouver. Quand on a trouvé la solution en mathématiques, on crie Eureka, comme tout chercheur.
Père Jean-Noël, vous êtes un petit peu l'exégète ce soir, celui qui a pratiqué le sport intellectuel de haut niveau à Rome et partout ailleurs. Est-ce que vous avez... Retrouver dans ce qu'on disait ce soir du sport, vous disiez, est-ce que quand je pratiquais l'exégèse à haut niveau et quand je la pratique à haut niveau, j'ai une forme de plaisir intellectuel semblable à celui que je pourrais avoir en faisant du sport?
D'abord, j'ai été sportif, j'ai été alpiniste, moi.
Oui, donc, c'est vrai.
J'ai fait beaucoup d'alpinisme de haut niveau. Et si je suis encore en vie, c'est parce que le bon Dieu est avec moi. Bon. Bon. Mais à part ça, je pense que... Il y a dans la recherche, disons même théologique et exégétique, il y a un certain sport. C'est un sport intellectuel, mais c'est... Alors, on ne cherche pas uniquement pour la gloire, on cherche parce que, justement, c'est la fides coherens intellectum, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire, on veut connaître... Et il y a une espèce d'émulation intellectuelle qui vient de la foi. Donc, plus on est passionné par son travail, plus il y a. Alors, il faut faire comme les sportifs, c'est-à-dire il y a aussi une. Il faut être prudent, il faut durer, il faut avoir l'endurance. Il y a un vocabulaire qui est semblable à celui du sport au niveau de la recherche. Je pense que, alors, je ne suis pas le seul chercheur ici, mais disons, il y a des analogies extrêmement fortes entre les deux.
Qui peuvent être faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive bientôt au bout du temps qui nous est compté.
Oui. Bonjour, Ségolène. Je voulais dire deux choses. La première, par rapport à l'amour de l'autre dans le sport, malgré la compétition. Effectivement, j'ai toujours vu mon père, qui était un sportif à bon niveau amateur, dire qu'il détestait son adversaire quand il jouait un match de tennis. Et il nous disait, pour gagner, il faut détester son adversaire. Et en même temps, il avait fondé l'association pour le fair play. Et jamais il se serait mal conduit. Il était toujours extrêmement correct et il serrait la main, etc. Donc, ce n'est pas incompatible, la lutte contre l'autre, tout en l'aimant et en le respectant. Le deuxième point, on a parlé du corps. Et on n'a pas entendu le mot chair. Et c'est vrai que moi, je pensais pendant tout ce que vous disiez au passage de saint Paul où il oppose la chair et l'esprit. Et où c'est vraiment une problématique importante chez saint Paul où, en gros, attention, le péché de la chair, c'est l'esprit qui doit dominer, on ne doit pas céder à la chair, mais c'est l'esprit, enfin, je simplifie. Et donc, je suppose qu'évidemment, il faut faire la différence entre la chair et le corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Père Jean-Noël, alors, on commence par la chair parce que Père Jean-Noël, vous avez une contrainte temporelle et après on revient sur la dynamis.
Oui. Pour Saint-Paul, le mot chair n'englobe pas seulement, c'est pas le corps seulement, c'est tout ce qui est faiblesse humaine. Il appelle ça la chair. Donc c'est pas simplement le corps. Le corps pour Paul est quelque chose de noble, quelque chose qui est fait pour la résurrection et tout ça. La chair, c'est l'humanité, corps et âme, dans sa faiblesse. Et donc, on est dans la chair, c'est-à-dire dans l'incapacité. Les mots sont ambigus, là. Hein, le mot sarx, chez saint Paul, c'est un mot grec qui correspond, en gros, à une certaine philosophie de l'époque, mais qui ne correspond pas du tout. Il n'y a pas d'égalité entre corps et chair. Voilà.
Ça, c'est pour
le mot chair est négatif, alors que le mot corps est positif chez saint Paul.
Ça, c'est pour la deuxième partie de votre question. La première, c'était sur l'ennemi, la détestation de l'ennemi. Père René Pichon, est-ce que vous détestiez les autres coureurs ?
Bien, moi, je distingue l'adversaire et l'ennemi, justement. C'est ce qu'il faut distinguer. On a besoin d'adversaires. Et quand on voit que, justement, on ne progresse que quand on est confronté à des bons adversaires, c'est-à-dire qu'ils sont ni trop forts ni trop faibles. S'ils sont trop forts, il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition. S'ils sont trop faibles non plus. Donc, il faut aimer l'adversaire, c'est-à-dire aimer quelqu'un qui ne va pas me faire de cadeau et à qui je ne veux pas faire de cadeau, qui va me rentrer dedans, qui va profiter du moment de faiblesse pour attaquer, etc. Ben, c'est aussi un jeu, ça. Donc, voilà. Mais l'ennemi, c'est tout différent. L'ennemi, c'est quelqu'un qui me fait du mal et à qui je fais du mal, qui me détruit, que je détruis. Donc, il faut s'habituer à avoir dans la tête qu'il y a le frère, le partenaire, l'ami, il y a l'adversaire et il y a l'ennemi. Alors l'ennemi, c'est tout le contraire de l'évangile, bien sûr. Et donc il ne faut pas avoir des ennemis, mais avoir des adversaires. Donc détester, ça veut dire, je comprends ce qu'il voulait dire, il faut être agressif. Enfin moi, je dirais un autre mot, on n'a pas trop parlé de l'agressivité, mais il y a aussi là une agressivité positive, une agressivité négative. L'agressivité, alors il faut être agressif, il faut avoir envie de battre, il faut avoir la hargne. Alors il y en a qui disent qu'il faut avoir la haine. Oui, c'est pour ça. C'est la hargne et la haine, c'est pas pareil. Et c'est justement une distinction spirituelle. La hargne, c'est je rentre dedans l'autre, mais j'ai pas de haine au sens spirituel du terme. Donc c'est une spiritualité, ça aussi. Donc voilà, hein, c'est ce que je dirais, mais c'est délicat. Toi, qu'est-ce que tu dis ? La hargne du combat contre...
En judo, par nature, on a un ennemi.
C'est vrai que pour illustrer ce que a dit le père René, je dirais que, enfin, comme je disais, moi, on était 5 ou 6 combattants à être en concurrence. Mais pour autant, quand on sortait du tapis, on était de très bons amis. Mais il y a vraiment le tapis était plutôt ce lieu où il fallait qu'on progresse les uns et les autres. Et donc, du coup, de cette manière, on ne devait pas se faire de cadeaux, mais parce qu'il y avait une dimension du jeu. Et même moi, je me rappelle, même moi, à titre personnel, ça avait été un peu un blocage de me dire il faut que je sois un peu méchant, il faut que je ne fasse pas de cadeaux à mon adversaire. Et en préparation mentale, on m'avait dit si tu respectes ton partenaire, tu ne dois pas lui laisser de cadeaux. Tu dois combattre de la manière la plus juste possible. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette question de comment être le plus juste avec mon partenaire, et c'est de ne pas laisser de cadeaux. Et ça revient au jeu, du coup, d'une certaine manière.
Il nous reste 1 minute pour une dernière question. Alors, il n'y aura qu'un. Ouais,
j'ai le micro, donc j'en profite. Vianney, je suis un modeste amateur de montagne. Et lors d'ascension en alpinisme ou en ski de randonnée, quand ça commence à devenir difficile, j'ai recours à la prière. Souvent, je fais des « Je vous salue Marie ». Et donc, je voulais savoir si vous aviez recours à la prière pendant votre pratique sportive.
Quand on fait des longs footings, c'est une méditation presque tout le temps. C'est une méditation à partir de ce qu'on ressent, justement, des sensations. Merci Seigneur, voilà. Et puis, il y a d'autres moments, on appelle à l'aide pour arriver à garder la volonté, le courage. Quand on a des passages à vide, Seigneur, viens vite, allez, viens, donne-moi le souffle, donne-moi l'énergie, donne-moi le courage, etc. Mais ce que je dirais aussi, moi, ce qu'il faut aussi voir un peu, la prière positive, la prière positive que je soulignerais, c'est, vous voyez tout un tas de gestes religieux qui sont faits. Des fois, on fait un signe de croix avant dans un match ou quand on a gagné, Eh bien, là, je trouve que c'est au niveau spirituel, c'est très important parce que quand on vit quelque chose de plus intense que... quand on vit quelque chose de très intense, il y a un moment donné, on se dit, mais ça vient pas de moi, ça vient d'ailleurs. Si j'ai réussi à marquer tel but, si j'ai réussi à telle performance, voilà. Je citerai l'année dernière, j'avais été faire une conférence là à l'occasion des jeux des championnats mondiaux de ski. Alors bon, et à ce moment-là, Alexis Patureau avait été médaillé d'or au combiné. Et quand il a passé la ligne d'arrivée, il dit c'est un miracle. Donc, comme on le dit souvent, c'est-à-dire il y a un moment donné où l'homme, même peut-être pas croyant, prend conscience que ce qu'il vient de réussir ou ce qu'il est en train de vivre ne vient pas de lui-même. Alors, s'il vient pas de lui-même, il vient de plus grand que lui-même. Alors, qui c'est qui est plus grand que soi ? Voilà. Donc, spontanément, il y a des gens comme moi qui disent « Merci, mon Dieu », d'autres, je ne sais pas ce qu'ils disent. Hein ? Donc, voilà. Il y en a qui font, qui se mettent un signe de croix et à qui ça s'adresse, hein, quand ils ont marqué un but.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Père René Pichon. Merci beaucoup, Jason. Le Père Jean-Noël Alessi a dû partir. Super. J'en profite pour vous donner les deux prochaines dates, et notamment la prochaine, puisque vous avez compris, c'est un cycle qui s'ouvre là ce soir. La prochaine conférence aura lieu donc au Centre Sèvres. Ce sera le 29 février. C'est une date facile à retenir parce que ça n'arrive que tous les 4 ans. Donc le 29 février, c'est une très bonne date. Bravo à Holy Games. Sport et handicap. Sujet, on a évoqué très très rapidement, sans doute trop rapidement, les Jeux paralympiques. Mais donc ce sera le thème le 29 février prochain, même heure, mais cette fois ce ne sera pas ici, mais au Centre Sèvres. Et pour votre information, début avril, il y aura également une conférence, cette fois à l'ACATO, sur le thème sport et communion. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux auditeurs de RCF qui nous ont suivis également. Très bonne soirée, très bonne fin de semaine à tous.